Alors c'est vrai que c'est le plan de. On a une formation sur la méthodologie mouvementée. Du coup, on s'est dit que cette année ça pourrait être bien de. Comme on parle souvent de ça et que c'est peut-être un peu opaque pour certains, on s'est dit que ça pourrait être pas mal d'en parler lors d'une rencontre le soir. Donc, voilà, les 40 pages, je vais les survoler. Ce sera plus rapide. Voilà, du coup, l'idée c'est de donner un peu notre vision de la recherche, hein, puisqu'on est, même si on n'en a pas l'air comme ça, on est un institut de recherche, on pourrait dire de recherche scientifique, on pourrait se qualifier ainsi. Et du coup, quand on parle de science et de scientificité, c'est important de. D'arriver à délimiter les choses, délimiter le savoir qu'on investit et finalement mettre nos critères de démarcation. Qu'est-ce qui est scientifique à l'ethnocafé, qu'est-ce qui n'est pas pour nous. Qu'est-ce que nous distingue ici d'une science académique ou d'une pseudo-science. Voilà, c'est un peu toutes ces questions d'arriver à se situer, à situer ce que l'on fait. Alors évidemment, on est dans un milieu de recherche. Ces questions sont la méthodologie en sciences humaines, c'est un des trois thèmes de recherche de l'ethnocafé. Donc, je vais essayer de me dépatouiller avec tout ça. Évidemment, vous m'arrêtez si ça devient incompréhensible. En même temps, je dis toujours que c'est toujours une bonne chose que ça devienne incompréhensible, parce que quand c'est incompréhensible, on sait qu'on est vraiment dans la recherche. Si tout est clair et limpide, on n'est plus des chercheurs, on est des découvreurs.
Des consommateurs.
Des consommateurs. Alors, on est, pour commencer, il y a la question de l'anthropologie, parce qu'on est un institut de recherche en anthropologie. Et du coup, l'anthropologie, c'est une discipline. Donc moi, je suis anthropologue dans la mesure où j'ai étudié autant de temps en médecine qu'en anthropologie. J'ai fait 8 ans d'études en anthropologie jusqu'au doctorat. Donc c'est une discipline que je connais. Et pourtant, on sent qu'il y a quelque chose qui distingue la façon dont on travaille ici de l'anthropologie universitaire. L'anthropologie, comme toutes les disciplines, comme la médecine, la philosophie, c'est d'abord un groupe de personnes qui va se retrouver autour d'une idéologie, une vision de la science. L'anthropologie, c'est très basé sur les représentations, la quête de sens. Et du coup, être anthropologue, c'est aussi se reconnaître de la discipline, c'est aussi respecter les codes de la discipline. Je pense qu'il y a beaucoup de... Pendant mon parcours en anthropologie, je me suis vite orienté, par exemple, vers des textes de philosophie, ce qui passait pas trop. Quand on est anthropologue, on n'étudie pas la philosophie, on étudie les auteurs anthropologues. Mmh. Et du coup, le terme d'anthropologie est peut-être... il est à re-questionner dans la mesure où ici, clairement, le lieu ici ne ressemble pas à un laboratoire d'anthropologie. Et on prend quand même un peu de distance et on se démarque de la façon dont travaille un anthropologue universitaire et notamment des écrits en anthropologie, puisque aujourd'hui on travaille beaucoup plus la philosophie que l'anthropologie. Mais en même temps, l'anthropologie c'est la science de l'homme, donc je trouve qu'on est quand même un lieu anthropologique dans la mesure où notre questionnement c'est bien d'amener une connaissance sur ce que c'est qu'un être humain. Mais amener une connaissance sur ce que c'est qu'un être humain, il y a aussi d'autres voies que celles de l'anthropologie universitaire. Vous avez des questions par rapport à ça ou... Alors après, donc à quelles conditions on fait de la science, à quelles conditions on fait de l'anthropologie être issu d'une discipline et savoir en sortir un peu. Il y a la question du temps, je pense que pour faire de la recherche, il faut du temps et il y a une sorte de... C'est un peu un sacerdoce, la recherche. Il faut s'y livrer, il faut du temps et je crois qu'on est... Lia et moi, on est complètement dans cette histoire-là, puisque le travail de recherche d'Ethnocafé est complètement confondu avec notre travail de soins et c'est un vrai engagement et en tout cas, le temps, on s'y dédie complètement.
Je suis désolé, est-ce que tu peux définir sacerdoce ?
Je sais même pas trop ce que c'est. Non, un sacerdoce, c'est, bah, c'est, enfin, je pense, c'est l'image du prêtre, quoi. C'est où tu t'engages, tu donnes ta vie à la cause. Enfin, je sais pas.
Tu as fait le vœu de chasteté et de.
J'ai fait le vœu de chasteté
pour faire le vrai sacerdoce.
Excuse-moi, je te taquine. De pas consommer d'université, peut-être. De chasteté.
L'idée de vocation.
Le sacerdoce, c'est, pour moi, c'est vraiment s'engager complètement, donner sa vie presque.
Oui. D'accord. Avec l'idée de vocation.
Avec une l'idée vocation. De vocation. Se dédier à.
Être appelé.
C'est un dévouement total.
Ouais. Alors je l'entends pas au sens de donner une cause, mais je pense que la tâche est telle qu'il faut s'y
donner pleinement,
s'engager pleinement, et ça demande, enfin on va y revenir, ça demande un engagement complet.
Pas tiède.
Donc il faut du temps pour faire de la recherche, et il faut aussi il faut un terrain, c'est-à-dire il faut de la matière, quoi. Et c'est ce qui je sais pas, si je voulais être taquin, ça peut nous distinguer du savoir de, par exemple, de politique, qui vont. Où il y a des gens qui peuvent parler d'autres personnes sans jamais les voir. Moi, ça m'est arrivé souvent dans le milieu du développement ou des choses comme ça. Il y a des gens qui vont parler des. Qui vont passer leur temps à parler des migrants sans jamais avoir de rencontrer des migrants. Et en politique, on est vite amené. Enfin, je parle du politique parce qu'on est vite amené à donner son avis sur la vie des autres, mais sans jamais avoir rencontré les autres. Là, la recherche en anthropologie, enfin, la recherche qu'on fait avec nos cafés, on veut coller aussi à la réalité des choses. Et c'est pour ça qu'il y a ce dispositif d'un lieu de soins qui partage un lieu de recherche. Le soir, il y a des gens qui sont soignés le jour, qui viennent là le soir, et des gens le soir qui sont là le soir et qui soignent le jour. Enfin, il y a tout cet entremets-là. Entremets-là, c'est un mot que j'ai juste inventé, mais qui est vraiment intéressant. Et donc voilà, faire de la recherche, c'est vraiment être en contact, pour moi, avec cette réalité humaine, avec les gens. C'est vraiment important. Et puis, pour finir d'introduire, c'est être disponible à la question des questions qui est celle de ce soir. Comment, moi, un homme, je peux produire de la connaissance sur un autre homme? Et c'est une question à laquelle beaucoup de gens répondent facilement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui produisent de la connaissance sur les gens. Enfin, en science, en médecine, on est tout de suite amené à dire qu'un tel est comme ci, comme ça. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins évident que ça. Est-ce qu'on peut produire de la connaissance en tant qu'homme sur un autre homme? Et du coup, être disponible et ouvert à la question, c'est reconnaître ça comme une question. C'est-à-dire quelque chose qui est pour moi vraiment loin d'être évident. Et si c'est évident, ça pose problème. Ça n'est pas du tout évident qu'on puisse être en capacité de produire une connaissance fiable sur un autre homme. Et du coup, il faut cette disponibilité d'esprit ici. Il faut travailler sur le fait que c'est pas évident. Et du coup, ça éveille une vraie curiosité, en fait. Alors. Si on parle maintenant, donc ça c'était un peu des conditions pour faire de la recherche, avoir du temps, avoir des gens concrètement à rencontrer, être disponible à la question. Après, est-ce qu'on peut parler de politique de recherche avec nos cafés? Là, je donnerai quatre points aussi. Le premier point de notre politique de recherche, c'est de débattre de la question de la méthode. Toujours amener cette question-là. Dans les écrits, en tout cas les écrits que je fais, il y a toujours un chapitre sur la méthode où ça c'est toujours interrogé. Parce que si on perd ces questionnements-là, si en tant que chercheur ou scientifique on parle plus de, on remet pas sur le tapis à chaque fois la façon dont on produit la connaissance, ça peut assez rapidement poser problème. L'autre point de notre politique de recherche de l'ethnocafé, ce serait une sorte de rupture, et je pense que l'ethnocafé c'est un projet un peu en rupture, avec, alors c'est, je mets tout ça au débat, hein, mais en tout cas, une rupture avec, avec ce qu'on pourrait appeler les sciences de la nature, les sciences... ouais, les sciences académiques avec une certaine façon de voir la médecine, une certaine façon de faire de la sociologie, une certaine façon de faire de l'anthropologie, on va y revenir largement, notamment par la distinction entre expliquer et comprendre. Enfin, moi depuis le départ c'est quelque chose qui m'éclaire beaucoup. Enfin, moi, dans tout mon parcours universitaire, parce que j'ai traîné mes guêtres 16 ans.
Tu ne dirais pas dans l'autre ordre, tu ne dirais pas comprendre et puis expliquer. Si tu dis expliquer et comprendre, moi je le verrais dans l'autre sens.
Alors je distingue expliquer et comprendre, oui. Tu vois, sans les lier.
Ah oui.
Dans la mesure où on est très vite dans l'explication des choses, et moi j'ai toujours été surpris. Bon, alors la médecine, c'est un peu. La médecine a besoin d'expliquer parce que c'est une. Bon, à un moment, il faut soigner des gens, du coup, à un moment qu'il y ait des choses arrêtées, c'est plutôt rassurant. Et par contre, en sciences humaines, la plupart des profs viennent là pour expliquer les choses. Ils ont passé 6 mois chez les Dogons, ils reviennent et ils expliquent qui sont les Dogons. Donc, expliquer, c'est toujours se mettre un peu en extérieur, vous voyez, en distance par rapport à la personne dont on parle. On est dans une extériorité par rapport aux choses. Et comprendre, c'est un petit peu l'inverse, c'est comprendre aussi le sujet qui explique finalement. Se comprendre non pas comme quelqu'un qui va expliquer une réalité qu'il a perçue, mais quelqu'un qui est dans la situation et qui va comprendre la situation dans sa globalité et comment moi, en tant que sujet, je suis impliqué dans cette situation.
C'est pour ça, on peut interrompre là,
du groupe.
Moi, je dirais, il faut d'abord, pour pouvoir expliquer, il faut d'abord comprendre.
Mais exactement. Bon,
c'est pour ça que j'ai l'air. Et qu'il y a des gens qui expliquent sans comprendre, justement, c'est un peu ce que tu disais, auquel j'adhère complètement, quoi.
Et la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas se contenter de comprendre? Est-ce qu'on peut aller dans l'explication? Mais on va y arriver. Dans la mesure où l'explication, il y a un philosophe qui s'appelle Ludwig Wittgenstein. Donc il a beaucoup travaillé, c'est un philosophe des sciences, et qui dit qu'en fait, dès qu'on va dans le concept, dès qu'on va dans une conceptualisation, automatiquement on s'éloigne de la réalité. Donc à un moment, c'est tout le problème de la, du concept,
C'est comme l'idée finalement. Le concept, c'est un peu une idée, quelque chose.
C'est une théorie.
Une théorie.
Et donc en fait, finalement... Plus on rentre dans la théorie, alors il faut en même temps y aller parce que ça permet d'expliciter, d'essayer de formuler les choses. Mais de façon un peu mécanique, selon ce philosophe, plus on est dans l'explicitation des choses, dans la formulation, dans le concept, dans la théorie, plus on y va, automatiquement, plus on perd un contact avec la réalité des choses.
Donc Pontalis, il disait ça, il disait nos concepts, nos outils d'un jour, rien de plus.
Voilà.
Qui c'est qui dit ça?
Pontalis.
C'est exactement ça. Alors du coup, ça, c'est sûr que ça amène une complexité. Alors que le concept amène la clarté. Mais c'est tout le... Et en même temps, on sent que c'est aussi plaisant d'être dans le concept. C'est plaisant d'être un sociologue, un anthropologue qui est invité à la radio, parce qu'il est c'est celui qui sait. Et quelque chose qui est valorisant. Et on peut être aussi un petit peu emporté là-dedans. Et du coup, l'idée, c'est peut-être avec nos cafés de se situer complètement en dehors, en rupture avec cette démarche-là. Donc être un esprit libre, donc c'est l'esprit libre de la science, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le sous-titre de l'ethnocafé. Alors, bon, ça, je trouve ça amusant parce qu'évidemment, personne se dit qu'esprit aliéné, quoi. On se sent tous un esprit libre. Mais en même temps, c'est pas rien. Et c'est Nietzsche qui a beaucoup travaillé sur l'esprit libre. Et peut-être l'esprit libre, c'est d'avoir toujours ce souci de sortir un peu des sentiers battus, de sortir de l'autorité de ses pairs, ce qui nécessite du courage, un caractère un peu aventurier comme Francis. Et voilà, je crois que... Ou en tout cas, s'affranchir des traditions. Résister à l'emprise de l'autorité ou à l'emprise de la tradition. Alors je crois qu'il y a vraiment quelque chose comme ça à l'ethnocafé, dans la mesure où, de par l'histoire du projet... Enfin, en tout cas, moi, je suis complètement sans lien avec l'académie. Donc, j'ai pas de. Enfin, moi, je connais des. J'ai des collègues qui sont dans l'académie, dans l'université. Quand on est universitaire, on est contraint. C'est-à-dire qu'on peut pas écrire de la façon qu'on veut. Il y a des codes, il y a des normes. Enfin, qui deviennent de plus en plus pesants. C'est-à-dire qu'il faut être cité. Donc, en fait, il y a quelque chose qui contraint. Et du coup, alors, ça n'empêche pas d'être un bel esprit, mais en tout cas, c'est dur de s'affranchir complètement de cette autorité si on veut faire carrière, en fait, si on veut être dans la profession. Et du coup, l'avantage d'ici, c'est qu'on est complètement libre. Alors, on est aussi de fait moins visible, hein, on n'est pas le patron universitaire ou le grand prof universitaire qui va être invité à la radio, mais en même temps, il y a une contrepartie qui fait qu'on est plus libre. Et du coup, plus libre d'aller dans d'autres explorations. Et du coup, plus libre de voir d'autres choses et de découvrir. Dernier point de la politique de recherche. Bon, ça, c'est on peut avoir un projet de recherche et il y a cette expression du point de vue de tous les points de vue. Donc ça, c'est... Cette notion de point de vue de tous les points de vue, c'est quelque chose qui était très fort au départ du projet. Si l'idée, c'est pas de faire des grands concepts, l'idée, ça peut être de simplement donner un point de vue sur les choses et de générer des points de vue. C'est-à-dire, c'est un peu l'idée des soirées, c'est d'inviter des gens et qui vont donner un point de vue sur la réalité humaine, sur l'homme, puisque si on fait l'anthropologie, c'est ça, et que peut-être le projet scientifique de l'ethnocafé, c'est de contribuer à ce point de vue de tous les points de vue, c'est-à-dire à proposer des points de vue, en disant que ce ne sont que des points de vue, et que la totalité des points de vue serait la réalité. Donc ça, c'est le point de vue de tous les points de vue, c'est Leibniz, c'est le philosophe qui parlait de ça. Ça a été beaucoup repris par Pierre Bourdieu, le sociologue. Et Leibniz disait, voilà, le but de la science, c'est d'arriver au point de vue de tous les points de vue, mais évidemment, il n'y a que Dieu qui est en capacité d'y arriver. Donc, mais en tout cas, dans l'intention, je trouve que c'est intéressant, cette notion de point de vue de tous les points de vue. Est-ce que vous êtes déjà perdu ou ça va ?
Non, au contraire.
Je voudrais dire que je trouve qu'il y a dans le point de vue tous les points de vue, il y a quand même un truc qui reste pour moi un peu surplombant. J'entendrai, d'après ce que tu dis, j'entendrai plus quelque chose comme le paysage des points de vue ou le tissage des points de vue. Mais dans le point de vue de tous les points de vue, il y a quand même l'idée que finalement, à la fin, il y a quand même un point de vue unique. D'ailleurs, après, on réfère à Dieu. C'est pas par hasard, en fait. Donc, je trouve que... C'est difficile de sortir de l'idée qu'à un moment quelque chose est concentré, mais du coup si quelque chose est concentré, c'est forcément, enfin c'est souvent, ou forcément, je sais pas, un peu surplombant, je sais pas. Enfin, moi en tout cas j'entends ça dans cette notion, elle ne me séduit pas pour cette raison.
Mais ouais, bien d'accord. Après, alors moi, on va parler du point de vue pour le coup, parce qu'on va beaucoup parler du point de vue. Après, voilà, le point de vue, tous les points de vue, bon, effectivement, bon, après, quand je dis que c'est le point de vue de Dieu, c'est dire aussi que c'est pas. Enfin, l'objectif, c'est pas de devenir Dieu, c'est sûr. Et que. Voilà, mais moi, ce qui me séduit, mais c'est pour ça que je dis que c'était au départ, parce que finalement, on n'en parle plus de cette histoire du point de vue, tous les points de vue, mais en tout cas, peut-être cette expression a le mérite de parler du point de vue. C'est-à-dire, maintenant, on parle plus, avec la philosophie de Merleau-Ponty, de suivre son rayon du monde. Et donc, voilà, dire que dans toute la vastitude à connaître de son existence, on n'est pas en capacité d'arrêter une réalité, comme certains pourraient nous le faire croire, mais de suivre un rayon. Un rayon parmi un milliard de rayons, et ce qu'on fait avec nos cafés, on formerait plus les choses comme ça, on ne fait que filer un rayon, ou deux ou trois, et quand la réalité, probablement, et les rayons sont infinis. Donc, mais moi, ouais, complètement d'accord avec ce
que tu dis. Moi, je verrais qu'il n'y a pas de reste. Il n'y a pas un point de vue qui reste dont on ne veut pas, qu'on rejette.
Oui.
C'est intéressant, ça. Ouais. Je trouve que tout est accueilli, quoi. Tout est... Enfin, je ressens comme ça. un peu comme, comme dans la nature, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas de reste. Tout est recyclé. Enfin, tout est lié.
Et ce que tu dis, ça m'évoque le poète Hölderlin qui parle du... parce qu'il y a quand même cette notion aussi du gros, de Hölderlin, je ne sais pas si on peut se tutoyer, parce que...
Oui, oui.
Hölderlin, tu vois qui c'est un poète qui parle du grand tout, c'est-à-dire qu'il y a... mais vraiment, c'est, on ne va pas plus loin, mais il y a quand même une... Il y a quand même aussi une notion de d'unité quelque part, de réalité, quoi, et... mais qui reste complètement mystérieuse, mais bon, nous allons rentrer dans la métaphysique. Lia, non, tu médites. Non, c'est... on continue. Alors, comment on connaît à l'ethnocafé? Pour reformuler encore les choses différemment. Alors, il y a une phrase que j'aime bien d'Aimé Césaire qui dit « Nous cherchions éperdument dans les livres des armes pour notre combat. » Donc, je crois que, en fait, dans cette rupture, comment on pourrait théoriser, comment on pourrait décrire ce qu'on fait si on est en rupture avec une autre façon de faire de la science? Alors, déjà, il y a le problème... Moi, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, c'est la question de l'objectivité. Et donc, remettre en cause l'objectivité. Alors, ça, on va en parler, c'est pas très compliqué à comprendre, l'intérêt de remettre en cause l'objectivité, mais en même temps, c'est frappant combien on est dans une culture de l'objectivité. C'est-à-dire, et on s'y fait tous prendre, quoi. C'est-à-dire que dans les médias, on ne parle que de chiffres, de choses, on n'avance que, ça c'est objectif. Et cette expression-là, je pense qu'on s'est tous surpris à la dire, c'est objectif, mais tu n'es pas objectif. À la fac aussi, il y a cette notion d'aller vers l'objectivité. Moi, j'avais fait une présentation au congrès d'anthropologie où, pour ma thèse d'anthropologie, j'avais travaillé beaucoup ces questions-là et donc je remettais en cause l'objectivité et ça avait fait beaucoup de débats. Donc les gens m'étaient un peu rentrés dedans. Voilà, comme quoi on est quand même en capacité de connaître les choses. Et il y a une prof qui avait été gentille avec moi parce que moi j'étais un petit thésard, donc le pauvre il se fait musculer. Elle dit mais si, mais l'objectivité, moi je suis d'accord avec toi, mais simplement pour moi c'est une ligne de mire, c'est un objectif à atteindre. Et voilà, et sa remarque m'avait aussi beaucoup interrogé, mais finalement, si avoir une ligne de mire qui n'existe pas, est-ce que c'est pas aussi prendre un chemin qui mène peut-être à des choses moins intéressantes. Donc, je pense clairement, on essaye d'abandonner cette... Lia, tu m'interromps tout le moment, si tu... On essaye d'abandonner cette notion d'objectivité, de dire que... on peut débattre de tout, mais de dire de façon peut-être radicale que ça n'existe pas. Notamment en se démarquant de ce qu'on appelle le positivisme. Francis, n'hésite pas à m'interrompre. Je te regarde parce que tu es plus proche que moi du milieu universitaire. Donc il y a une philosophe que j'aime bien qui s'appelle Annick Stevens, qui est prof en Belgique, je crois, et elle fait des vidéos sur YouTube. Donc je vous ai mis, je pense que les références sont sur la bibliographie. J'aime bien cette femme, c'est très agréable. Elle a fait plein de vidéos, elle parle d'auteurs. Si vous êtes intéressé par la philosophie, c'est une très bonne façon de dégrossir les sujets. Puis, par exemple, sur Anna Arendt, elle a des vidéos qui durent 8 heures. C'est très fouillé, puis elle est très agréable à entendre parler. Et donc, elle parle de cette philosophie des sciences positivistes. Donc les sciences positivistes, c'est cette idée que finalement, pour connaître un objet ou un homme, on va le poser sur un socle, on va en faire le tour et puis on va le décrire avec du point barre, l'objet comme ça. on ressent tous que c'est limité, mais en même temps, c'est le travail de beaucoup de sciences, les sciences dures évidemment, mais aussi les sciences, je mets dedans la sociologie, je mets dedans l'anthropologie, la psychologie, et finalement, est-ce que vraiment on est en capacité, donc on revient à cette question des questions, est-ce qu'on peut produire la connaissance sur un homme, Non, on n'est pas. Enfin, prétendre qu'on est en capacité de dire qui est cette personne ou cet objet en tournant autour ou en faisant quelques entretiens, dire qu'on est en capacité de dire formellement quelle est la réalité de cette personne, non, a priori, c'est pas possible. Et les gens qui le prétendent se trompent, en fait. Enfin, je le pense sincèrement. Et c'est un peu ce qu'on défend ici, c'est qu'en fait, ça n'est pas. Arrêter le savoir sur un objet, sur une personne de cette façon, ça n'est simplement pas possible en fait.
Il s'évacue comme sujet. Je suis comme sujet regardant cette boîte. Je suis pas neutre.
Exactement.
C'est quand même moi qui regarde cette boîte.
Voilà.
Avec mes yeux, avec ma façon de voir.
Exactement. Une autre personne la verra différemment et on pressent que. Que la substance et l'essence de cette boîte-là, parce que enfin moi je vois des. Je vois la tranche, je vois. Enfin, Francis voit une autre chose, on pressent bien que c'est pas. On ne peut pas arrêter le savoir sur les choses. Alors on est tous d'accord, ça paraît de l'évidence, mais si on observe les scientifiques ou les. Je mettrais les politiques et les journalistes dedans, ben c'est tout le temps ça. C'est-à-dire qu'on parle de choses, le politique parle de choses de façon très arrêtée. Les choses c'est comme ça, il faut faire comme ça. Alors c'est peut-être à un moment il faut agir, mais après on rentre dans des débats philosophiques infinis. Peut-être que pour agir il faut vraiment que les choses soient arrêtées, mais non, en fait on peut pas arrêter de savoir sur. On n'a pas cette capacité là en fait. On n'est pas outillé pour ça.
Il y a quelque chose qui était. Les neurologues disent là, il y a eu plusieurs. J'ai cité, c'est intéressant parce qu'ils disent qu'en fin de compte tout le monde croit qu'on voit. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fin de compte, toujours, les perceptions qu'on reçoit sont traitées par des logiciels dans le cerveau. Et qu'en fin de compte, on peut avoir. On a tous les mêmes yeux au niveau mécanique et objectif, ce que tu disais. Mais ce qui est complètement subjectif, c'est le logiciel, comment on le traite, quoi. Mmh. Et ce qu'on disait pour la boîte, quoi, par exemple. Moi, je peux voir que tout de suite, ce produit n'est pas très bon pour la santé, quoi, tu vois. Parce qu'il y a. Il y a. Et bien, vous voyez ce que je veux dire, c'était très important de. Je trouve qu'actuellement, les neurologues nous ont beaucoup apporté tout ça, parce qu'on disait, parce qu'on a tous le même organe, on va rester dans les yeux, parce que c'est pire pour ce qui est olfactif, je crois que c'est encore pire, parce que là, on est complètement. Moi, ce qui m'est super agréable, pour certains, c'est du BKK, quoi, comme odeur. Alors, les yeux, on a tous le même nez. Mais en revanche, ce que ça engendre en nous, c'est peut-être ce que tu disais, genre complètement différent.
Il y a un truc que je m'en suis rendu compte il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps en fait, c'est de penser qu'en fait on voit, il y a une vision double, en fait on voit deux images, et c'est seulement le cerveau qui. En fait, ce qu'on voit, notre relation au monde, elle est deux choses. Elle est le résumé de deux choses, en fait. Il n'y a pas une vision unique. Et en fait, c'est vachement intéressant de voir que toute la vision, toute l'image, par exemple, qu'on a sur la perspective, la tavolette, tout ça, toute cette image toujours du point de fuite, etc. En fait, c'est une construction mentale, parce qu'en vérité, on est habité par deux images, d'abord. Ça, c'est un truc que quand j'y ai pensé, ça m'a beaucoup intéressé.
Un truc architecte, c'est.
Ouais.
Ouais, complètement. Et puis du coup, on ne sait pas du tout comment on voit l'autre aussi. Alors il y a ce qui vient, et puis il y a probablement y a une façon de fonctionner de la rétine, tout simplement. Probablement un peu différente des autres. On ne sait jamais comment l'autre voit.
C'est même quand on regarde un tableau, on ne voit pas deux personnes ne voient pas de la même manière. Hein.
Donc sur la question du positivisme, je peux citer un passage aussi de Michel Foucault. Michel Foucault, il a beaucoup travaillé sur la psychiatrie et la folie et l'asile. Enfin, il a beaucoup étudié les psychiatres. Et donc il dit que en fait, voilà, il dit ça aussi que en fait, à force de vouloir faire des concepts en psychiatrie. La psychiatrie, c'est un ensemble de concepts. Hein, du DSM 4 ou 5, voilà, c'est des diagnostics, de la clinique, quoi. La clinique, c'est que des mots, des concepts plaqués sur des sensations, sur des façons d'être des patients. Et je peux vous lire une phrase ici. Par conséquent, en découvrant ces structures absolument universelles auxquelles nous sommes soumis, donc, enfin, c'est, voilà, prétendre que ben, le DSM-5, les psychiatres disent ben, les gens sont comme ça. Puis nous, on apprend ça et puis on est censé être tous d'accord. Hein. Donc c'est ça, les structures absolument universelles auxquelles nous sommes soumis. Les sciences humaines ou la psychiatrie ne découvrent pas un secret intérieur à l'homme. Hein, tout ça ne permet pas de découvrir le secret intérieur à l'homme. Le secret intérieur de cette boîte. Et en fait, c'est bien ça dont on parle. C'est comment on fait pour découvrir le secret intérieur de l'homme. Donc ces structures absolument universelles ne permettent pas de découvrir le secret intérieur de l'homme, mais au contraire un réseau fatal à l'intérieur duquel l'existence humaine se dissout. Et Foucault dit que les concepts, c'est la mort de l'homme. Je trouve ça très... très
par exemple, là, c'est plus cette boîte, c'est la boîte.
Voilà.
Brave anonyme parmi tant d'autres, fait à l'usine, alors qu'au final, elle est unique si on la regarde à l'échelle atomique.
Ouais.
Et c'est la seule qui va être aussi assise à cette table avec nous.
Exactement. C'est ça. Et donc, il faut travailler. Alors, du coup, voilà, c'est vraiment arriver à ne pas collaborer à ce réseau fatal, même si on collabore probablement toujours un peu. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller vers ce secret intérieur de l'homme. Donc, on abandonne l'objectivité. Nous, on n'a pas du tout l'ambition d'être objectif. On n'y croit pas. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on pourrait revenir au sujet. Puisqu'on n'est pas objectif, est-ce qu'on est subjectif? Donc, c'est Georges Devereux qui est en photo. Georges Devereux, il a sa photo ici, là. On a fait une soirée sur lui, on a vu le film Jimmy Pay. Donc c'est un film sur son histoire. Georges Devereux, c'était un anthropologue français et qui a écrit un bouquin qui m'a beaucoup éclairé, qui s'appelle De l'angoisse à la méthode. Et dans ce bouquin, en fait, il explique que quand on fait une expérience, c'est tout aussi intéressant d'étudier celui qui fait l'expérience que celui qui est expérimenté. Et en fait, dans une expérimentation, prenons l'exemple des expérimentations à l'hôpital, où quand un médecin mène une étude clinique sur des patients, Devereux dit que si on veut avoir accès à la réalité qui est là, il faut que l'expérimentateur soit autant l'objet d'étude que l'expérimenté. Parce que l'expérimentateur va toujours regarder la réalité avec le propre filtre de ce qu'il est, enfin, c'est ce que tu disais.
Ouais.
Et on a beau mettre des concepts, enfin moi j'ai vu ça plein de fois à l'hôpital, il y a des techniques d'épidémio, de statistiques, donc on arrive au final avec des chiffres, et donc vous avez votre tableau plein de chiffres, mais là enfin, le gars va interpréter face aux chiffres, il essaye de mettre des filtres pour être objectif, mais au final il va... deux chercheurs ne vont pas dire la même chose face au même chiffre, en fait. Et du coup, oui, tout est très déterminé par le sujet. Donc on pourrait dire qu'en anthropologie, finalement, ce que disait Pierre Bourdieu, que ce que raconte un anthropologue, ça n'est qu'une construction sociale d'une construction sociale. C'est-à-dire que quand vous faites un entretien d'anthropologie, vous accueillez quelqu'un, cette personne, elle va se retrouver devant un anthropologue. Bon, ça peut la saouler, ça peut l'exciter, ça peut la flatter, ça peut la... Enfin, et du coup, ben, il va construire complètement son discours devant l'anthropologue. Il ne va pas se livrer comme ça, sans friction. Il va construire ce qu'il raconte du fait de la situation. Mais l'anthropologue, il fait exactement la même chose. Peut-être qu'il est fatigué, peut-être qu'il est devant une très jolie femme, il est complètement émerveillé, peut-être qu'il est dégoûté, peut-être. Et du coup, il va complètement construire aussi ce qu'il raconte.
La condamnée, c'est la peinture d'or.
Voilà. Sur la très jolie femme, j'ai lu un article là, la semaine dernière. Il y a une étude qui a étudié comment travaillaient les médecins face à des très jolies femmes. la conclusion, mais là aussi, hein, c'est qu'en fait, le médecin avait un diagnostic beaucoup plus fiable devant une jolie femme. Alors, c'était pas jolie femme, c'était, euh,
c'était le terme, c'était...
Désirable, non?
C'était pas désirable, c'était...
Séduisante.
C'était pas séduisante non plus.
Appétante.
Enfin, je retrouve, c'était attractive.
Ah oui, quelque chose de fort.
Et donc voilà, tout ça, c'était, mais c'était intéressant parce que du coup, ce qu'il sous-entendait, c'est que le médecin avait plus d'attention et s'appliquait plus devant une jolie femme que devant une femme pas
bonne. D'accord.
Moi, je pense que ça peut être l'inverse aussi. Donc, je veux dire, on peut faire des moyens, mais bon.
C'est qui a mené cette étude? C'est vient d'où?
C'est alors c'était dans la presse médicale. C'était une étude.
De l'intérieur.
De l'intérieur. Ouais. C'était une étude sur la pratique des médecins. Et sur ce qu'on appelle les biais cognitifs, parce que le titre, c'était pas la lune, mais il disait que le travail du médecin était influencé par ses biais cognitifs.
Parce que ça, c'est un humain, c'est
normal. Ouais, ce qui
est captivé par un sujet, il va être plus attentif, voilà. Quoi, ça se comprend.
Mais c'est vrai que ça pose question aussi d'arriver à écrire ça, enfin tu vois, c'est pas évident.
Oui. Bon,
mais
c'était... Mm.
Et donc l'exemple qu'il prenait, c'était la beauté. Et donc voilà. Et donc Pierre Bourdieu, il a beaucoup étudié ça. Il a beaucoup étudié aussi les scientifiques et les voilà les habitudes des scientifiques où en fait les faits scientifiques qui ressortent du travail scientifique sont complètement déterminés par le jeu entre les acteurs, par la pensée qui anime le collectif et tout ça. Donc, on pourrait dire, finalement, à la façon de Descartes, la poussée là-dedans, on pourrait dire en fait, que tout est subjectif et que, finalement, on n'a accès à rien d'autre que, que ce qu'il y a dans notre propre cerveau. Hein, et du coup, toutes les connaissances qu'on produit seraient fondées sur notre propre cogito. Et la pensée serait le fondement à la fois des sciences et de la philosophie. Finalement, tout ne sortirait que de notre cerveau. Donc là, c'est Kant qui a, qui a critiqué cette notion de Descartes en disant non, c'est pas la critique de la raison pure, non, on n'est pas non plus que des sujets, ce qui est produit sur l'homme et par l'homme n'est pas que du subjectif. La connaissance n'est pas que produite par notre esprit. Parce que si c'est ça, de fait, si on parle que de notre esprit, on passe à côté du monde, c'est un retrait du sensible. On perd le monde, on serait complètement absent du monde. Peut-être la philosophie de Descartes serait un désengagement du réel, et peut-être qu'il faut. Il y a peut-être un intermédiaire entre l'objectivité et la subjectivité qui serait un retour aux choses mêmes, un retour au monde tel qu'il nous pose problème dans les situations. Et du coup, si on n'est pas. On laisse tomber l'objectivité. On laisse tomber la subjectivité. Et du coup, la voie qu'on essaie d'explorer, c'est la voie d'une pensée qui serait une pensée sensible. Quelle est... Vous êtes toujours avec moi ou...
Oui, oui.
Bernadette, je pensais... voilà, du coup, on est d'accord que l'objectivité pose problème.
Oui, oui.
Donc on laisse tomber l'objectivité. Je suis sévère. On est d'accord que la subjectivité, on ne peut pas être que dans la subjectivité parce qu'on n'est pas un cerveau isolé qui pense.
Oui, voilà. C'est vrai.
Et du coup, il faut arriver à revenir aux choses mêmes, à revenir à cette boîte-là, arriver à faire à revenir à cette réalité concrète. Et donc ça, c'est la philosophie de ce qu'on appelle la phénoménologie, la philosophie d'Edmond Husserl. Vous connaissez Husserl un petit peu, enfin, on en a parlé. Donc Husserl, il dit en fait qu'en fait, il faut pas... L'objectif, c'est pas d'étudier de prétendre connaître les choses dans leur entièreté, mais c'est de se limiter à ce qui apparaît. En fait... il faut réfléchir à la façon dont le monde nous apparaît et à la façon dont notre conscience est finalement jetée au monde. Notre conscience ne fonctionne pas en huis clos sur elle-même, mais elle est complètement en permanence jetée, elle regarde les choses, elle contacte les choses. Et finalement, ce qu'il faut étudier, c'est la façon dont le monde apparaît à notre conscience. Cet aller-retour entre soi et les choses. Et la chose qui existe vraiment, c'est la chose qui apparaît là. Donc, la réalité qu'on peut approcher, c'est le monde tel qu'il apparaît là, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on connecte ici, là, dans l'instant. Là, je vois Francis, je vois ce qui est là. Mais ce que fait ma famille à cet instant, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe ailleurs, tout ça n'est... quelque part, n'a pas le statut de réalité puisque cela ne m'apparaît pas. Donc il dit qu'il faut, revenir aux choses mêmes et étudier les phénomènes, étudier ce qui apparaît et comment les choses apparaissent.
Parce que le monde, il est déjà là avant moi, quoi. Les choses existent avant moi.
Voilà. Enfin, et en même temps, si on n'est pas là, on ne peut que le supposer.
Oui.
Et du coup, c'est ce qu'il appelle, il dit qu'il faut remettre en cause, il faut s'affranchir de ce qu'il appelle le monde naturel. C'est-à-dire le monde naturel, c'est, on a tous tendance à penser que le monde est commun à tous, c'est-à-dire qu'on est dans le même monde et que... Et qu'il y a quelque chose qui... Enfin, le monde que je vois, et les gens, on repart sur la vision, on voit tous la chose de la même façon, et qu'il y a un monde commun. Mmh. Et en fait, Husserl dit non, ça n'existe pas. Le monde commun n'existe pas parce que le monde est toujours le monde pour soi.
Oui, c'est vrai, on réagit différemment suivant ses propres réactions par rapport à quelque chose.
Voilà.
Et c'est certain que... on ne peut pas être absolument objectif, hein.
On a abandonné d'ailleurs le but. Mais encore une fois, c'est des évidences, mais c'est bien de le formuler. C'est-à-dire que c'est inutile de prétendre avoir découvert la réalité dans sa globalité parce que on est simplement en capacité de connaître notre propre monde et la façon dont notre conscience échange avec le monde. Et la façon dont le monde de l'IA, moi je n'y ai pas accès. Ça n'est pas possible. Et du coup, ça, on revient au point de vue, tous les points de vue. Effectivement, c'est une tâche impossible parce qu'on est simplement en capacité d'explorer son point de vue.
Ça... D'où il est malentendu, finalement. Hein.
Oui, complètement.
Ce qu'on croit comprendre et qu'on ne comprend pas.
Voilà.
C'est aussi un décentrement. C'est ça qui est intéressant, non, je trouve.
Ouais.
C'est ce décentrement. Quand on dit un monde pour soi, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il y a une multitude de mondes pour soi. Donc, en fait, un monde pour soi, c'est sortir de l'ego, en fait, et voir que tous les soirs, enfin, il y en a plein, quoi.
Exactement.
Et ça, je trouve très intéressant. Ouais. Dans le bouddhisme, il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est saisir. Tu as parlé d'apparition avec Husserl, les phénomènes, comment ils apparaissent. Et on parle de la saisie. Et j'aime bien parce que dans la saisie, ça veut dire que les choses sont là, elles passent. Comme tu as dit, elles sont là, quoi.
Mais, il faut les attraper.
On les saisit.
Exactement.
Je trouve ça assez beau. Et bien sûr, dans le bouddhisme, l'idée, c'est de se dessaisir, de se détacher, de la saisie. C'est ça un peu l'un des objectifs. Mais cette idée de saisir, je la trouve très parlante.
Ouais. Et du coup, ça ramène à la notion de... Donc la philosophie du Husserl, c'est une philosophie de l'intention, l'intentionnalité. C'est-à-dire que ce monde pour soi qui apparaît, il apparaît parce qu'on y met une intention. C'est-à-dire qu'on se dirige vers quelque chose. Et qu'en fait, c'est en visant les choses que les choses apparaissent et que le monde se crée. Et on vise toujours les choses. Il dit que la conscience, elle est toujours conscience de quelque chose. Donc en permanence, on vise les choses. Et c'est par cette visée que la chose va apparaître, mais c'est son apparaître à moi, c'est-à-dire qu'elle n'apparaît pas dans son essence, mais dans sa façon dont elle apparaît. Là, je vous regarde, vous m'apparaissez. Ce que j'appelle Bernadette, c'est que mon phénomène pour moi. Ce qu'on appelle le phénomène, c'est une esquisse. Husserl parle d'esquisse aussi, je trouve que c'est un très joli mot. Donc, moi, je vais parler de Bernadette, mais je devrais dire c'est l'esquisse de Bernadette pour moi.
Et tu comprends.
Et donc chacun aurait une esquisse différente. Et ça, c'est vraiment important parce que encore une fois, ça interroge sur attention, dès qu'on prétend avoir une connaissance qui est valable pour tous, on est dans une erreur systématique parce que ça n'est pas possible.
On peut parler de projection du coup.
On peut parler d'illusion peut-être. Mais en tout cas, dire que ce que je vois là, la façon dont je vois Bernadette doit être la façon de tous, en tout cas, ça n'est pas possible.
Donc,
ou alors, quelqu'un peut être. Quelqu'un peut te demander. Oui, de quelle façon faut viser le monde. Donc, imaginer des choses. Mais a priori, on voit.
Non, mais moi, j'en étais persuadée. Par exemple, quand on se promène dans un paysage, je suis persuadée qu'on ne voit pas. Chaque personne ne le voit pas de la même manière.
Voilà.
Même si on voit les arbres, si on est devant le paysage, il y en a qui seront frappés par des contrastes, d'autres par des lignes, d'autres par des formes, d'autres par des couleurs. C'est vrai qu'on ne voit pas les choses.
Oui,
et du coup, cette philosophie-là, je trouve, c'est toute la philosophie de l'ethnocafé. C'est-à-dire, voilà, on étudie, on est en capacité de voir le monde par sa propre conscience, par la façon dont on vise le monde, et notre seule capacité est de relationner dans une relation très personnelle avec les choses, et de voir un monde qui est finalement un monde très personnel. Ce qui n'empêche pas d'avoir la curiosité pour le monde des autres, ce qui n'empêche pas d'avoir la curiosité d'essayer de comprendre, mais ça amène de la prudence et de la fluidité. Pour moi, un patient au cabinet, c'est toujours fondamentalement un mystère. Mais c'est pas parce que c'est un mystère que je vais dire, bah, monsieur mystère, cassez-vous, je peux pas vous comprendre. Bon, après, Husserl a beaucoup travaillé, je vais pas m'étendre là-dedans parce que moi-même j'ai du mal à comprendre, mais c'est ce que je suis en train de travailler à ce moment, mais sur la notion d'intersubjectivité.
Hein, sur la notion, mais c'est vrai que l'être humain est fondamentalement mystérieux, de toute façon.
Mais on voit combien cette notion-là n'est pas une notion de notre culture.
Oui.
Parce que les choses sont toujours, paraissent toujours évidentes.
Oui.
Quand on les écoute, on parle toujours des autres, finalement.
Parce que ça rassure, finalement, quand on fait une image fixe, finalement, peut-être.
Bah, probablement que ça permet une opérationnalité, une action, mais si l'action est toujours... Mais probablement que l'action est toujours... Bah, c'est la difficulté en politique, c'est-à-dire que celui qui décroche le pouvoir... va voir le monde avec ses yeux et va emmener tout le monde dans sa vision et va organiser le monde dans sa propre vision. Alors après, je dis pas que c'est facile, comment faire autrement, mais il y a quand même des possibilités de faire autrement. Mais déjà, avoir conscience du phénomène, ça mène, je trouve, beaucoup de fluidité. En tout cas, moi, pour mon travail, sans être président de la République, en étant médecin généraliste, je trouve que tout ça m'est pas venu dans le berceau, c'est venu par des lectures, mais ça a vraiment changé ma façon de travailler. Notamment dans le soin psychique, de me dire que les gens là, fondamentalement, je ne vais pas comprendre dans son entièreté cette personne. Et donc, ça va. Est-ce que je peux donner des conseils? Bon, c'est à débattre, mais en tout cas, ça change la posture. Et du coup, de dire aussi, par rapport, pour rester dans le soin deux minutes, mais de dire que le monde se construit par l'intention qu'on y met. Par notre façon de viser le monde, si la personne qui est malade est malade du monde qu'elle vise, est malade d'un monde pourri, est malade de regarder BFM TV tous les jours, on peut viser différemment les choses. Et ça aussi, ça peut être une technique, je pense que ça a trait à notre soin poétique, c'est-à-dire si on peut changer le monde, c'est très facile de changer le monde, il suffit de le viser différemment. Cette personne qui va regarder BFM, c'est presque un peu mon histoire sans trop vouloir rentrer dans le... Mais cette personne qui va viser l'actualité tout le temps, cette même personne, si elle se met à regarder le soleil qui se lève tous les matins, le monde va changer.
Oui.
Mais vraiment.
Ah oui.
Une anecdote aussi, moi j'ai travaillé beaucoup à Médecins du Monde, en deux périodes, j'ai travaillé une période de 10 ans, puis après, pour ma thèse d'anthropologie notamment, j'ai quitté Médecins du Monde. Et un jour, donc j'étais plus à Médecins du Monde depuis 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un de la mairie et qui me dit « Ah non, c'est compliqué, les gens à la rue, là, c'est de pire en pire. » Et là, je lui réponds « Ah bon, mais moi, je trouve que ça va mieux. » En fait, ça va mieux parce que simplement, je ne voyais plus de personnes pauvres depuis 3 ans. Donc, moi, j'avais vraiment l'impression que ça allait mieux. Il y avait moins de SDF qui s'était passé. Et donc, pour illustrer ça... Et donc, il y a une vraie capacité, je trouve, et Husserl le dit, que se sortir de cette attitude naturelle, de cette façon de penser que le monde est commun à tous, ça permet de retrouver une liberté. Ça permet de retrouver une liberté, de retrouver une capacité à viser le monde différemment. Et bon, là, je m'éloigne un peu du sujet. Et après, il y a un autre auteur, qui est Maurice Merleau-Ponty, qui a... Alors Maurice Merleau-Ponty, c'est, enfin Husserl et Merleau-Ponty, c'est pour moi les deux philosophes, en tout cas. C'est moi qui parle, du coup. On a des références un peu différentes, mais en tout cas, c'est pour moi, c'est les deux auteurs qui ont vraiment construit un peu la philosophie de l'ethnocafé. Alors Merleau-Ponty, il a vraiment il a travaillé l'œuvre du Serle. Son travail, c'est vraiment une reformulation de l'œuvre du Serle. Et en fait, il a des très belles expressions sur le fait de dire qu'on est un peu comme un aveugle, en fait. On voit le monde comme un aveugle palpe les choses. On ne peut pas voir plus que cette palpation du regard, en fait. Donc on a accès à des toutes petites choses, mais en même temps cette palpation a toute son importance. Et du coup, Merleau-Ponty a beaucoup travaillé sur la peinture, notamment sur la peinture de Cézanne.
Ah oui.
Pour illustrer cette histoire de comment on perçoit les choses. Et donc Cézanne, il y a un tableau de Cézanne qui est là. Et donc il a beaucoup travaillé sur ce tableau.
Sur celui-là en particulier.
Enfin, il parle pas mal de... j'imagine qu'il a travaillé sur beaucoup de choses. Mais, et en fait, Merleau-Ponty a étudié comment travaillait Cézanne. Et en fait, il explique... Donc je vais mettre les références dans la biblio. Il y a un audio de Merleau-Ponty qui faisait des entretiens radiophoniques à l'époque, et donc on peut l'entendre expliquer ça. Enfin, c'est sympa, c'est toujours sympa d'entendre les gens parler, puis en plus ça permet de mieux connaître dans le timbre de la voix. Je trouve ça, c'est comme Michel Foucault, c'est extraordinaire de l'écouter. Je sais pas si vous avez écouté un phrasé très particulier. Et en fait, Merleau-Ponty explique il compare la peinture de Cézanne à la peinture classique. Dans une peinture classique, on voyait une toile avec un paysage, avec la forêt, l'église, le village, le lac, le soleil couchant. Ce tableau-là, ce que dit Merleau-Ponty, il dit, mais ce tableau-là, on ne voit jamais ça. On ne voit jamais à la fois le soleil, on ne voit jamais à la fois le lac, on ne voit jamais à la fois le village. Donc tout ça n'est pas la réalité, puisqu'on ne voit jamais comme ça. Là, si on prend une photo si on fait une photo de la soirée, sur la photo, on sera tous là avec. Mais moi, je ne peux pas voir tout en même temps. Je regarde vers la fenêtre.
Oui, c'est ça. Oui, voilà. Effectivement.
Et du coup, il dit. Et Cézanne, lui, avait ce souci. Mais peut-être que je pense que. Enfin, je retrouve des choses dans vos tableaux aussi.
Ah, moi, j'adore Cézanne. Pour moi, c'est un peintre extraordinaire.
Et du coup, il avait ce souci de faire émerger sur la toile le monde de la même façon que le monde émerge à ses yeux.
Oui.
Et du coup, en ne respectant pas la perspective.
Oui.
Et du coup, c'est pour ça que quand on voit ce tableau, on se dit, mais c'est... Bon, la table, elle est bizarre. On se dit, mais c'est bizarre, la table, la perspective, on sent qu'elle est... On peut dire qu'elle est fausse.
Oui, mais après ça va glisser.
Oui, c'est ça. Et en fait, il faisait vraiment ce travail que la façon dont on voit le tableau soit à l'image de la façon dont on perçoit la réalité. Et je trouve que c'est aussi... Bonsoir. Bienvenue.
Je crois bien que je
me trompe. Pas
au bon endroit.
Quoi? Ah oui, c'est plus bas. Ici, on ne danse pas, mais...
C'est qu'on dansait, c'est bien.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve que cette histoire de peinture classique et de peinture de Cézanne, ça illustre complètement ce qu'on dit sur la recherche, une philosophie de recherche par la phénoménologie et une recherche plus classique qui va barder de concepts, faire finalement comme la peinture classique, qui va finir par parler du monde par les concepts théoriques scientifiques, mais un monde auquel on n'a finalement jamais accès par notre perception. Et du coup, finalement, c'est un peu cette histoire de cette volonté de Cézanne de révéler les choses comme elles lui apparaissent. En fait, ça doit être la même chose pour notre travail en anthropologie. On parle de littérature grise en anthropologie, enfin en sciences, on parle de littérature grise. C'est vrai que les sciences sociales... Vous connaissez cette expression?
Non.
Je ne connaissais pas. Non.
La littérature scientifique, les publications scientifiques, c'est la littérature grise.
C'est pas sympa, ça.
Mais pourtant, c'est de. C'est, ben, c'est de alors, je ne sais pas quelle est l'histoire de cette expression, mais
peut-être
c'est.
Matière grise, non ?
Il n'y a pas de vie.
Matière grise, oui, je pense que c'est le papier aussi. C'est le, tu vois, c'est le, c'est une littérature qui n'est pas un livre d'enfant, tu vois. C'est. Si tu regardes ça, c'est un peu gris, quoi. Et donc. Donc en fait, comment sortir de, ben, comment sortir du plan unique de la page, comment sortir de la raideur des écritures, de ce côté un peu décharné de, enfin quand je lis des articles de sociologie, des fois c'est, enfin ça, ben, ça paraît vraiment déshumanisé en fait, un peu décharné.
Sans vie.
Comment ?
Sans vie.
Sans vie. Ouais. Alors je dis pas que c'est, je dis pas que tout ça est inutile, hein, mais en tout cas c'est pas notre direction. Voilà, vous avez des. Je vais peut-être avancer plus vite sur la suite. Vous avez des remarques ? Là, tu.
Ouais, tu vois, si on considère donc que l'autre est fondamentalement un mystère complètement inabordable, inaccessible et que. Qu'il est en lui-même une frontière finalement et qu'il y a une espèce d'opacité fondamentale finalement je comprends que ça puisse aussi générer un souffle d'angoisse au départ et que ce soit aussi vertigineux de se dire qu'en fait il y a une déstructuration quasi totale si on est vraiment dans cette pensée, si on embrasse cette pensée de déstructuration de notre horizon de sens finalement qui va nous déstabiliser aussi complètement. Et du coup, je repensais à ça par rapport aux résistances que je pouvais sentir à considérer les choses comme ça, à ce besoin en fait de fixer des identités, de figer les choses, en tout cas d'arrêter le sens à un moment donné, soit par en essayant de l'objectivité d'autres passages de ce type-là. Et en fait, moi, je me dis que c'est là où la poésie intervient, justement, pour... toi, tu disais que, justement, toi, pour cet auteur, c'est, ça nous redonnait une liberté, finalement, tu vois. Mais comment, c'est-à-dire comment passer d'un moment où il y a presque un écroulement, je trouve, quand vraiment... On sent ce que cette idée implique en fait, ça implique un mouvement perpétuel, ça implique qu'on peut jamais complètement saisir quoi que ce soit finalement. Et comment faire en sorte que ça devienne, que ça donne de la positivité à l'existence et à notre intention et donc une liberté. Il y a des enjeux, je pense, de liberté effectivement très fort là-dessous. Et voilà, et moi je trouve que la poésie à cet endroit-là elle intervient comme si moi je trouve ça extraordinaire comme pensée, c'est-à-dire qu'on peut aussi considérer par là que l'autre, le monde, tout ce qui nous entoure peut rester une source de on va dire d'étonnement et justement de poésie perpétuelle, quoi. Quelque chose qui va nous entraîner toujours dans un au-delà, dans un mouvement qui est ininterrompu, une sorte de curiosité totale en fait. J'ai l'impression que c'est ça aussi une des formes de l'essence, mais c'est plus une naissance poétique finalement perpétuelle et qui peut justement nous faire basculer de l'angoisse, parce que pour moi cette pensée peut être réellement complètement vertigineuse en vérité si elle nous accompagne tout le temps, tu vois. Si tout le temps tu es en train de te dire je suis dans l'illusion, tu vois, il y a quelque chose aussi comme ça qui peut vraiment et de remettre ça, si tu veux, dans ce mouvement là où on va aussi non seulement rester dans ce mouvement de curiosité totale, d'ouverture, donc se laisser surprendre finalement par tout ce qui émerge, par tout ce qui nous apparaît, mais aussi peut-être à un moment donné d'être dans une sorte d'adhésion, tu vois, beaucoup plus près, tu vois. On parlait de différence entre c'était pas exactement tes mots, mais entre expliquer et s'impliquer. Tu vois, être impliqué, c'est à un moment donné qu'il y a une adhésion, ou peut-être, ça c'est ma question justement, à quel endroit il peut y avoir une sorte de porosité aussi, où on va finalement se laisser saisir par un flux parfois très subtil un peu souterrain finalement, qui va faire qu'il va y avoir une circulation, comme un écoulement de toi à moi, quoi, c'est-à-dire de l'un à l'autre. Voilà. Je sais pas si j'étais claire, mais...
Ouais, complètement. Bah, tu as introduit bien la suite. Tu vois, la poésie.
Ah ben voilà. Ah ben, super.
Mais pour le début de ce que tu disais, bon, encore une fois, on est dans un rayon, donc l'idée, c'est pas de dire que le reste, c'est de la merde. Ou, c'est, ouais. Enfin, je pense que le travail de la science classique c'est un autre rayon. C'est pas celui qu'on choisit parce que ça nous excite moins, mais c'est un autre rayon. Et puis aussi, y a un sociologue que j'aime bien qui s'appelle Bruno Latour et qui a beaucoup étudié le travail des scientifiques. Et il disait, mais si vous dynamitez les scientifiques et les savants, mais tout le monde meurt d'angoisse. C'est-à-dire que la science, elle est d'abord là pour dire quel est le monde et que les gens soient, ok, c'est comme ça, ça va.
Je
parce que, en fait, la voie qu'on propose est une voie hyper angoissante. Ah, ouais, mais c'est une voie d'aventurier. Et là, on est content.
Ouais.
mais on comprend que c'est très inconfortable. Mais il y a quand même des accroches. Pour revenir à la poésie, donc je resitue les choses. L'objectivité, on n'en parle plus. La subjectivité, on n'est pas que des êtres sujets. Husserl nous apprend que ce qu'on croit être la réalité est que notre réalité, c'est-à-dire que notre conscience est en lien avec l'environnement et se crée notre propre monde. Mais évidemment que l'idée, c'est d'aller plus loin, on ne va pas se contenter de ça. Mon propos, ce n'est pas de dire on a notre propre raison du monde, on a notre propre monde à soi, vivons dedans, point barre. L'idée, c'est d'avoir cette curiosité d'aller ailleurs, d'aller dans le monde, dans le mystère. Du coup, comment on va, par quel outil, quelle méthode, on va essayer de voyager dans ce mystère.
Moi je pense aller dans ce monde par l'expérience, pour être dans la vie, parce que c'est là, parce que l'homme, enfin je veux dire l'homme c'est quand même un être vivant, et la vie on la trouve où dans l'expérience, et là j'avais relevé, parce que je suis contente, j'ai vu dans les biographies, une phrase de Dilthey, qui dit « ce qu'est la vie nous est donné par l'expérience ». Nous l'éprouvons et c'est néanmoins une énigme. Parce que je trouve que ça nous met vraiment en face de quelque chose.
Ouais, quoi, complètement. Ouais. Et du coup, aller dans le mystère, évidemment, pareil, il y a mille façons de faire.
Ouais.
Et du coup, nous, la façon qu'on propose, c'est d'appeler la poésie à la rescousse. Ouais. Donc, appeler la poésie à la rescousse, c'est vivre un peu. Ce qu'on pourrait appeler un rapport poétique au monde, essayer de ce rapport dont parle Husserl de sa conscience avec le monde, essayer d'être inspiré de la façon de faire ou d'être des poètes, des poètes qui nous inspirent. Et c'est un peu l'intuition de départ du projet de l'ethnocafé. D'abolir les frontières, notamment les frontières entre l'intérieur et l'extérieur, entre le corps et l'esprit. De retrouver c'est un peu ce que tu dis sur l'expérience, un rapport tactile avec, un peu charnel avec les choses. Donc c'est Merleau-Ponty qui parle beaucoup de la chair du monde, on est dans un élément de l'être qu'il lui appelle la chair du monde. Comme il y a l'eau, l'air et l'élément de l'être, c'est un élément charnel de la chair. Donc essayer de retrouver cette direction de la chair. Aller dans l'imaginaire aussi, ce qui n'est pas du tout commun, c'est pas du tout mobilisé par les sciences classiques, c'est-à-dire l'anthropologue.
Et ça fait peur, l'imaginaire.
Voilà. Et donc l'anthropologue, la radio ne dit pas je vous dis ça parce que je l'ai imaginé en rêve. C'est... et pourtant, il y a l'imagination, le rêve donne accès à. Alors dans notre tradition.
Heureusement qu'on a ça, mon Dieu.
Voilà, dans notre tradition occidentale, c'est un peu, c'est un peu une fiction. Mais en fait, dans beaucoup d'autres traditions, c'est une façon de voyager à travers la réalité et dans le perçu. Cette notion d'imaginaire et de poésie, l'intérêt de la poésie pour voyager dans l'invisible, moi, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup éclairé, c'est Martin Heidegger, où... Et donc c'est lui qui m'a mis sur la voie du poète Hölderlin. Et en fait, la théorie d'Heidegger, c'est de dire, en fait, une des façons d'aller dans le mystère et dans l'invisible, c'est de mettre des images, en fait, de faire des métaphores, en fait. Et il dit, en fait, je laisse enfin, auteur de ses propos, mais il dit, en fait, les Grecs ne croyaient pas en leur dieu, en fait, ils ne croyaient pas que les dieux existaient, mais faire toute cette mythologie grecque, c'était une façon de poser des images sur les choses qu'on n'arrive pas à qui sont mystérieuses. Ah, oui. Et oui, du coup, ben, il y a toute cette mythologie, oui, voilà, de Gaïa et Uranos, de la terre et du ciel qui sont séparés. Et du coup, passer par l'imaginaire et par le mythe permet de se déplacer dans l'invisible. Et du coup, je ne sais pas si vous ressentez ce que je veux dire, mais d'aller un peu dans le mystère, en fait, par les images. Et donc voilà, c'est en ça qu'on convoque la poésie. Comme une métaphore qui va permettre de se diriger dans les choses mystérieuses dans la chair du monde, comme une voix qui va accompagner, enfin, quand on lit les poèmes dans les méditations, voilà, c'est comme une voix qui accompagne, on se laisse porter par des mots dans un chemin qui relie à l'environnement, qui relie à ce qui est là, mais ce qui est mystérieux. J'aime bien aussi cette notion de pensée ronde, c'est-à-dire qu'on est dans une pensée très cartésienne, comme on l'a dit. Et la poésie, ça amène à voir les choses, à sentir, à...
Un enthousiasme.
Un enthousiasme, à voir les analogies, à réfléchir par les images. Quand je vois cet arbre, qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait émerger?
À être des Cézannes.
À être des Cézannes. l'art en général, la poésie, ça fertilise l'imagination, ça fertilise l'imaginaire, ça permet d'explorer ce qui est pas atteignable spontanément par nos sens. Après, je peux citer une phrase de Jean-Pierre Siméon, j'ai dit Pierre Siméon tout à l'heure à la méditation, Jean-Pierre Siméon. Donc Jean-Pierre Siméon, c'est un poète que vous connaissez peut-être. Il parle du texte poétique. Il dit « Un texte poétique se donne comme la vérité. Or, la vérité n'est pas une chose close. La vérité de la vie est toujours en mouvement. Le sens n'est jamais arrêté, définitif. Rien n'est en réalité assigné à résidence d'un sens clos et définitif. La poésie manifeste cela. Aucun poème, que ce soit un haïku japonais, le psaume du Cantique des Cantiques, ou les vers de Maïakovski, aucun poème n'est épuisé par une seule lecture. C'est en cela qu'il nous mène à la liberté. C'est un langage qui est porteur, non pas d'un sens prévu ou attendu ou espéré, mais de 1000 sens inespérés. Et donc là, pour terminer, ça amène à cette invitation au mouvement, en fait, d'où la méthodologie de mouvement de l'ethnocafé. Je vais prendre la dernière partie. Je vais. Ça va, vous tenez le choc?
Oui, oui, oui.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de méthodologie mouvementée, où finalement, la seule ambition dans notre institut de recherche scientifique, c'est de se mettre en mouvement et de mettre en mouvement la pensée. Oui. C'est pour ça que j'aime beaucoup les soirées ici. Pour moi, c'est vraiment la matière qu'on produit. Mm. C'est quelqu'un parle, on réagit, mais chacun dans son monde, enfin ce qui apparaît. Et cette effervescence là, c'est notre littérature grise, mais qui du coup n'est pas grise. C'est notre matière, quoi.
Voilà, grise.
Voilà. Notre matière grise. Et c'est pour ça qu'on enregistre. Alors déjà, l'enregistrement, c'est déjà quelque chose qui a quitté un peu le réel, mais les comptes rendus des soirées, c'est l'enregistrement, ce qui reste plus dans le mouvement que moi si j'écrivais des choses, si je reprenais les interventions de chacun. Donc voilà, notre méthode, c'est ça, c'est d'être dans ce mouvement, engagé dans le monde à la façon de Socrate. Donc Socrate, il y a la petite poupée qui se balance là-haut Donc, moi, j'aime beaucoup Socrate avec cette façon de, qu'il avait de, d'enseigner d'abord aux gens leur ignorance. En disant que Socrate il parcourait Athènes, vous savez, à papoter avec tout le monde, il était hyper agaçant parce que dès que quelqu'un lui disait un truc, il démontrait qu'en fait il avait tort, et donc les gens, c'est un homme visiblement extrêmement agaçant. Et en fait, ce que dit Socrate, c'est que c'est en comprenant notre ignorance qu'on retrouve de la curiosité et qu'on retrouve finalement l'accès, l'accès au savoir. Et je pense que toutes ces histoires-là de phénoménologie, c'est ça que ça dit. C'est d'abord, on ne sait pas les choses, on ne sait pas qui est l'autre, ça ramène au mystère. Et du coup, c'est en comprenant ça qu'on se remet en route.
Je sais que je ne sais rien, c'est de lui ou c'est d'un autre?
C'est possiblement de lui, ouais, je pense. Ouais. Et voilà, ce qui motive le désir de connaître et le fait d'ignorer. Ça, je crois que c'est vraiment aussi ce qui définit, l'ethnocafé. Marguerite Duras parlait d'être montre comme une imbécile.
Dans le travail dans l'imbécilité.
Ouais.
Précisément.
Je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il a dit à propos de la poésie. La poésie est une langue à part que les poètes peuvent parler sans crainte d'être entendus, puisque les peuples ont coutume de prendre pour cette langue une certaine manière d'employer la leur. Je ne me rappelle plus qui a dit ça.
En tout cas, vous avez bien retenu. Hein,
oui, oh oui, parce que moi j'adore la poésie. Moi je trouve que la poésie, c'est magnifique.
Et puis après, donc c'est ici, je pense que c'est vraiment le lieu. Pour moi, le premier travail, c'est. C'est pour ça que c'est pas. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu travailler à Ethnocafé, ça s'est parfois pas très bien passé parce que. Je le dis très, très honnêtement, le travail à faire ici, c'est de comprendre son ignorance. Et puis de le vivre dans sa chair, on est des ignorants. Mmh. Et c'est pas si facile, en fait.
Mais il faut une certaine maturité, justement, pour accepter, justement, et de voir que l'ignorance. Mais j'allais dire, heureusement qu'on ne sait pas tout, ça, on ne chercherait pas. Si on savait tout, ça serait terrible.
Juste pour en venir à Duras.
Ouais.
Non, c'est intéressant ce qu'elle disait sur le fait qu'elle, elle écrivait toujours avec la tête trouée, comme une passoire, quoi, dans un état de déconcentration extrême. Et qu'elle écrivait les choses comme elle les attaquait, comme les choses l'attaquaient elle, comme les choses l'aveuglaient, justement. Voilà. Et on a l'impression que, voilà, elle cherchait comme un. Une sorte d'absolu dans l'écriture qui était très paradoxal aussi, c'est-à-dire à la fois une écriture courante qui glisse, qui court, qui galope, en fait, qui jaillit d'elle, c'est le pur jaillir. Et à la fois, elle cherchait à réduire aussi ce matériau langagier au maximum. Voilà. Elle parlait de l'ombre interne. L'ombre interne, c'est une expression qu'elle employait pour décrire ce lieu intérieur, là où se déroule pour elle la conversation de la conversation. C'est cette espèce de bloc noir un petit peu au milieu du monde, comme elle disait aussi de l'écriture, et qui à un moment donné allait c'est presque s'échapper de nous, quoi, et presque malgré nous, en fait. Voilà, j'ai peut-être fait hors sujet là, mais.
Non, c'est.
Non, ça va.
Et du coup. Voilà le. Enfin, le mouvement de l'ethnocafé, c'est travailler sur son ignorance, c'est se jeter dans le monde. Quand il dit qu'il faut avoir une conscience éclatée dans le monde, et c'est vraiment ça. Les soirées, il y a des gens qui sont d'horizons très hétérogènes. On trouve qu'on pratique de soignants, c'est quand même ça aussi, c'est-à-dire on se jette dans la bataille. Il y a des gens, tous ces gens qui viennent dans le cabinet et des histoires, qui vous embarquent là, et d'être dans cette mêlée là, c'est vraiment une chose importante. Il y a eu des très belles choses qui sont passées comme ça, avec le merveilleux cancer de Jodie Essay, cette rencontre là, Bernadette, cette femme qui arrive avec son cancer, qui veut discuter, on se laisse embarquer, puis il sort un joli livre. Avec le petit caillou, des livres qui va sortir, c'est un foyer là de personnes en difficulté psychique, on va dire, et Il y a quelqu'un qui travaillait dans le foyer qui était ma patiente, même si on faisait un livre ensemble, et puis pof, on fait un livre ensemble. Et des fois, alors ça peut être un peu, des fois un peu impressionnant, déstabilisant de se retrouver là, et puis là, ça fait des œuvres là, qui sont derrière, l'exposition en salle d'attente. Cette façon de d'être dans le monde, alors déjà, c'est très intéressant en termes de recherche, et puis en fait, c'est le monde secret, c'est très créatif. Enfin voilà, c'est.
C'est pour ça que j'ai bien aimé ton livre, mais j'ai oublié le titre. Je sais plus, où tu racontes des anecdotes.
Pensée sensible, oui.
Comment ça s'appelle?
Pensée sensible.
Ouais, pensée sensible, c'est très intéressant, je trouve. Un feu rouge, un clin d'œil, quelque chose comme ça. Fait. Il y en a tout plein, quoi. C'est vrai que je vis de ça, quoi. Ouais. Beaucoup.
C'est ça la chair du monde de Merleau-Ponty, ce rapport vraiment charnel avec les choses, avoir les sens un peu aux aguets. Donc voilà, et puis après ici aussi c'est être taquin, quoi, c'est-à-dire être un peu comme, enfin, alors je suis gentil de tempérament, mais on le fait peut-être pas assez du coup, mais bousculer un peu les gens, aller contre les pensées automatiques. Moi j'aime bien, enfin, Platon parlait de Socrate en disant que c'était un temps, c'était une torpille, c'était une sage-femme. Alors le temps c'est l'insecte, le temps c'était un temps parce que quand on est à Languille au bord de la piscine, on est comme ça, et puis tout d'un coup on sursaute parce que on s'est fait piquer par un temps. Donc Socrate c'était ça, il prenait des gens un peu à Languille dans leur esprit, puis il leur balançait des, et puis les gens se réveillaient comme ça. Donc sortir d'une certaine torpeur, c'est si ce Dieu peut être ça, on est content. Et puis et la torpille, c'est l'inverse. La torpille, c'est le poisson. La torpille, elle paralyse les gens. Donc des gens qui sont dans une pensée automatique comme ça, un moment, ping, ils s'en prennent dans la tête. Il y a un petit texte qui va sortir là, sur le duo narcotique de l'ethnocafé. Bref, c'est le texte. Et puis, après, l'anecdote, Socrate, il se qualifiait lui-même de sage-femme. Parce que la sage-femme dans la Grèce antique, c'était des vieilles femmes qui étaient stériles. Et donc, pour dire que lui-même était stérile, et que c'est-à-dire qu'il n'était pas un professeur, qu'il n'avait rien à apprendre aux gens, à part leur faire sentir qu'ils sont ignorants et que du coup, ils peuvent avoir accès à un autre. Donc voilà, ce côté, ici, on n'est pas, c'est pas une réunion de professeurs, quoi. Donc voilà, ça fait partie de la méthodologie mouvementée de l'ethnocafé. La responsabilité du chercheur à l'ethnocafé, c'est d'abord d'être cet animateur du mouvement, d'être dans cette responsabilité du mouvement, et voilà, c'est ce qu'on essaie de faire dans les soirées. Et je crois que du coup, finalement, cette méthode-là va, c'est peut-être aussi une originalité du projet, c'est que la méthode, elle prime sur le contenu. Et des fois, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est-à-dire que des fois, les gens, on peut être fier de sa trouvaille, de son concept, de les dogons sont comme ça. Ici, en fait, moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'abord notre façon de travailler. Après, ce qui arrive, ce qui va... Franchement, les livres qui sortent, moi, j'aime bien les livres, mais moi, dans mes livres, j'arrête pas de dire « croyez pas ce que j'écris », quoi. C'est-à-dire... l'important est avant le livre, en fait. C'est un peu impalpable. Et voilà, je terminerai vraiment avec cette notion de Merleau-Ponty, c'est que la perception, finalement, c'est arriver à développer une pensée interrogative. Et je terminerai là-dessus, sur être toujours dans cette curiosité, dans cette pensée qui interroge, et percevoir le monde. Voilà, c'est vraiment interroger le monde. Et du coup, comment on produit la connaissance sur l'homme, en étant dans une curiosité totale, en fait, et interrogative sur et puis tout ce qui vient après n'est que discours. Bon, voilà ce que je pourrais.
Quand on pense quand on dit que la curiosité est un vilain défaut. C'est absurde.
Ah oui, quelle mauvaise phrase.
C'est dingue.
Les dernières générations qui ont été...
Ah oui, c'est complètement fou.